Billets d'Europe, animé par Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Le traité de Lisbonne a démocratisé les institutions européennes. Alors Daniel, quels sont les autres objectifs poursuivis ?
Alors le traité de Lisbonne poursuit deux autres objectifs, simplifier et clarifier. La simplification concerne la structure de l'Union en trois piliers tels que créés par le traité de Maastricht. Un pilier communautaire, la CE, et deux piliers intergouvernementaux, la PESC, politique étrangère et de sécurité commune, et la JAI, justice et affaires intérieures. Cette structure est supprimée. Il n'y a donc plus la dualité communauté et Union. La clarification a trait aux compétences de l'Union. Le traité de Lisbonne répartit les compétences entre l'UE et ses États membres en distinguant trois grands types de compétences. Les compétences exclusives pour les domaines dans lesquels les législations et les actes contraignants ne peuvent être adoptés qu'au niveau de l'Union européenne et non pas par un État membre seul. Ils sont au nombre de six: l'union douanière, la politique commerciale commune, l'établissement de règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, la politique monétaire pour les pays de l'UE dont la monnaie est l'euro, la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche, la conclusion d'accords internationaux sous certaines conditions. Deuxième sorte de compétences, les compétences partagées pour les domaines dans lesquels légiférer et adopter des actes contraignants peut être fait aussi bien au niveau européen que par chacun des États membres indépendamment des autres. Cela concerne 13 domaines, dont le marché intérieur, la cohésion économique et sociale et territoriale, l'agriculture, l'environnement, la protection des consommateurs, etc. Troisième sorte de compétences, les compétences d'appui regroupent des domaines dans lesquels l'UE peut intervenir uniquement pour appuyer les actions des États, mais sans harmoniser les législations et les réglementations. Cela porte sur 7 domaines, parmi lesquels la santé humaine, l'industrie, la culture, l'éducation, etc.
Le traité apporte-t-il d'autres modifications au traité existant ?
Il en apporte, Yann, et ces modifications sont loin d'être anecdotiques. Bien que mentionnée seulement en annexe, la Charte des droits fondamentaux acquiert une valeur juridiquement contraignante, sauf pour le Royaume-Uni, la Pologne et la République tchèque, qui obtiennent une dérogation. Bien que ne figurant pas dans un article spécifique du traité, la primauté du droit de l'Union sur le droit national fait l'objet d'une déclaration annexe. Le traité prévoit aussi qu'une révision visant à réduire les compétences de la Commission européenne est possible. En outre, désormais, un État membre peut se retirer volontairement de l'Union européenne. À la demande de la France, dans le traité, la concurrence libre et non faussée n'est plus un objectif de l'Union, mais un moyen au service du marché intérieur. Un protocole déclare les services d'intérêt économique général valeur commune de l'Union. Enfin, la politique de lutte contre le changement climatique fait son entrée dans le traité.
Démocratiser, simplifier, clarifier, voilà un programme permettant d'entrevoir une ratification aisée.
On aurait pu le penser. Pourtant, signé en décembre 2007, le traité de Lisbonne entre en application seulement en décembre 2009. C'est que, comme l'écrit le politologue Thierry Chopin, ce fut, j'ouvre les guillemets, une course d'obstacles à l'issue jusqu'au bout incertaine. S'il est vrai que l'acte de ratification n'a pas fait problème, unanimité à Malte, en Italie, une voix contre seulement en Roumanie, en Estonie, 6 voix contre en Espagne, majorité écrasante, 18 voix contre seulement en Belgique, ou majorité confortable, en France 52 voix contre, en Allemagne 58 voix contre. En amont de la ratification, le processus a rencontré plusieurs obstacles. Le premier obstacle, juridique, a porté sur la question de la compatibilité du traité avec la loi constitutionnelle du pays. Elle a été posée en Allemagne, en Belgique et en République tchèque. Et l'obstacle n'a été levé par la Cour constitutionnelle nationale tchèque qu'en novembre 2009. Un deuxième obstacle, politique, celui-ci a concerné 3 pays. Pour 2 d'entre eux, la Pologne et la République tchèque, il s'est agi de l'opposition entre la présidence de la République et le gouvernement. Pour le troisième, l'Irlande, il s'est agi du rejet du traité par référendum en juin 2008. Mais le gouvernement irlandais ayant refusé de renoncer à la ratification lors d'un deuxième référendum organisé dans un contexte économique dégradé et grâce à des garanties consenties par l'Union, le peuple irlandais a effacé en octobre 2009 sa première consultation.
Alors, le traité de Lisbonne entre en application fin 2009, or près de 15 ans plus tard, il reste pour une partie des Français un déni de démocratie.
Et oui, et on a entendu les mots trahison, crise contre la démocratie, des mots très forts, sans que l'on sache toujours s'ils désignent la teneur du traité ou la voie empruntée pour son adoption. S'agissant du fond, il est difficile de considérer que traité constitutionnel et traité de Lisbonne sont jumeaux. Certes, il y a des emprunts, mais nous l'avons montré, il y a aussi des abandons. Le premier s'inscrivait dans une démarche constitutionnelle et symbolique. Le second s'est attaché à réformer le fonctionnement pour une plus grande efficacité de l'Union. Les opposants au traité constitutionnel dénonçaient la mise en place d'un super-État. Or, de nombreux analystes ont déploré le manque de souffle européen du traité de Lisbonne. S'agissant de la ratification en France, avant même son élection, le président de la République, Nicolas Sarkozy, avait annoncé durant la campagne qu'il opterait pour la voie parlementaire, comme la Constitution française le lui permettait. Après examen par le Conseil constitutionnel, une mise en conformité du traité de la Constitution s'avérant nécessaire, une réforme de cette dernière a été adoptée par le Parlement en congrès à Versailles en février 2008, 500 voix pour, 181 contre et 152 abstentions. Rien d'illégal donc dans la procédure, mais un choix politique avec l'Europe en partage.